Oui, continuez. Nous retrouvons Lorenzo da... Pardon, Philippe Solers.
Bon, et vous en savez comme ça beaucoup. Très long. C'est quand même aussi fascinant de voir donc, dans cette vie de Da Ponte, rappelons-le, si longue, 1749-1838, il termine la partie qui finalement lui assure aujourd'hui l'immortalité, c'est-à-dire les trois opéras mozartiens. Il le termine avec Così fan tutte en 1790. Il a encore 50 ans à vivre.
C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et quand vous prenez les dates, vous vous dites, voyons, ça fait rêver. 1790, bon. Nous, ici, en France, nous avons le nez collé à notre 89, ce qui est suivi, là tout le monde devient discret, d'un 92, d'un 93, d'un 94, assez spécial, n'est-ce pas ?
La terreur, d'un mot.
Ça s'appelle comme ça, c'est pas moi qui ai inventé le mot, c'est la terreur, la grande terreur. La grande terreur est un produit français, spécifique, qui ensuite va connaître son exportation massive par ailleurs. Oui, On peut dater la chose.
Oui, la balance des paiements là, est très positive pour la France.
Oh, mais nous avons inventé ça et nous l'avons beaucoup, beaucoup, beaucoup vendu à l'étranger avec les résultats que l'on sait et sur lesquels on glose interminablement parce qu'en millions de morts, ça, vous savez, ça, il y a de quoi s'occuper.
Bon. C'est une invention rentable.
Oui, alors, vous êtes en 90, vous êtes avec Così, c'est-à-dire à ce sommet de civilisation qui va bientôt être puni parce que moi, je suis persuadé que lorsque la liberté est à son comble, eh bien, l'humanité ne l'aimant pas, elle s'empresse de la punir, de la sanctionner, comme Don Juan, en effet. Et là, il y a quelque chose d'énorme, parce que 10 ans, nous sommes en 1800, puis alors, nous avons ce Da Ponte, nous allons le retrouver à New York, là, dans les années 20,
oui.
De 1820.
Oui.
Alors, ça fait 30 ans. C'est comme si je vous disais, qu'est-ce qui s'est passé entre... 1939 et 1950, évidemment, un basculement général de civilisation.
Là, ça ne fait même que 10, oui, ça ne fait voilà. Même que 10 ans.
C'est ça. Ou entre 1960 et 1991. C'est-à-dire, on a l'impression que le monde a tellement changé. C'est-à-dire, bon, on n'est plus en noir et blanc, on est en couleur, les femmes avortent, se contraceptent, s'acceptent, bon, etc. Enfin, il y a tellement eu de choses. Et donc, est-ce que ce monde dans lequel nous vivons a quelque rapport avec celui qui était il y a 30 ans? On a l'impression que c'est très très loin. Mais pour Da Ponte, ça devait être encore pire. Il est à New York, à la fin,
oui.
Et qu'est-ce que c'était que cette représentation de Così fan tutte à Vienne? Est-ce que je suis dans un nouveau monde qui a tellement progressé, qui est une merveille,
ou bien est-ce que... dans un double nouveau monde.
Voilà. Alors, là, je trouve qu'on va faire des progrès en histoire de temps en temps. Si on se demande s'il y a certaines périodes fastes, exceptionnelles, ne sont pas suivies de la stupeur de quelqu'un qui a assisté à ces choses et qui se retrouve avec le fait d'avoir tout à recommencer, au fond.
Madame, il catalogue questo delle belle chiamo il padron mio, un catalogue quelli è che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Albania 231, 100 in Francia, in Turchia 90.
Il va essayer d'être épicier, ben ça va pas marcher. Toutes les affaires qu'il va monter, parce que toujours, il essaye toujours de, au fond, de se refaire,
de se refaire, d'optimisme.
Oui, c'est un aventurier comme ça qui essaie. Et là, au fond, ben ça va finir toujours par la même chose, c'est-à-dire qu'il va se raccrocher à son italien.
Et la langue italienne.
S'identifier à cet italien qu'il a tellement aimé, qu'il a mozartifié, en quelque sorte, hein, donc déifié par la même occasion, à un moment où personne n'en voulait plus, probablement, hein, déjà. Et là, il va donc être autour de livres, de libraires, imprimeurs, professeurs, ce que Casanova lui avait conseillé, d'ailleurs, bon, il avait refusé, mais en fait, cette idée d'être professeur. Et alors, on voit ce Da Ponte réduit à sa langue. Il va te dire uniquement avec cet Italien. Et là, ses mémoires sont merveilleuses, parce qu'on sent avec quelle dévotion il va fouiller les caisses des libraires. L'un lui dit à un moment donné, tiens, j'ai tout ça, là, genre. Alors, tu vois, vous pouvez prendre ça si vous voulez, je vous le vends pour rien.
Oui, c'est ça.
Et alors,
au prix du vieux papier.
Et alors, c'est ça, il sort, il y a un Dante, il y a un Pétrarque, il y a l'Arios, il y a le Tasse, et pour lui, c'est merveilleux. Il se trouve dans une situation magnifique, en quelque sorte, ça ne va pas lui rapporter beaucoup d'argent, mais où des ignorants ont ça dans leurs entrepôts, ne savent même pas de quoi il s'agit, alors que pour lui, il s'agit du trésor des trésors, vous pensez ?
Vieni alla finestra, o mio tesoro, e vieni a consolare il pianto mio. Se leghi a me di il zucchero porti in mezzo il cuore. Non esser gioia mia con me crudele, lasciati almeno veder io bel amore.
Da Ponte va en effet s'inventer
une fonction.
Une fonction qui n'existait pas, c'est je représente toute la littérature italienne. D'ailleurs, il a écrit, 1827, une histoire de la littérature italienne à New York. Il a écrit, ce qui est pour nous encore probablement plus touchant, parce que c'est sa première fidélité qui passe à travers Don Juan, et qui arrive à New York, il faut vraiment être un navigateur.
Au long cours.
Oui, avec de longues idées qui durent. Et il a écrit des observations sur Dante qui ont été publiées en 1825 dans le New York Review and Athenaeum Magazine, dont il pense qu'elles vont faire date pour l'interprétation de Dante. Et puis alors, il essaye de rentrer en contact avec les libraires italiens, mais ces libraires italiens ne comprennent pas le marché. Ils ne comprennent pas qu'il ne faut pas se faire payer tout de suite, qu'il faut investir. Donc ils ne peuvent pas pouvoir faire carrière dans la librairie. Un New York qui aurait été civilisé à la latine à l'époque, évidemment, ce ne serait pas tout à fait le même New York où, encore une fois, l'influence allemande va devenir de plus en plus déterminante. Thaler Dola.
Senti, mio amico, vuoi andar via? Ma che ti ho fatto? Che vuoi lasciarmi? Niente affatto, quasi ammazzarmi. Ma che sei matto. Per urlare, io non urlo, ma voglio andare via, buffone. Senti, mio amico, ma che sei matto?
Mais de manière générale, d'ailleurs, c'est assez curieux de constater donc, que disons, le stéréotype antisémite, à savoir ces gens-là réussissent si bien en affaires, s'applique aussi mal à Da Ponte.
Bien sûr.
Alors est-ce que là-dedans, il y a simplement le fait que le stéréotype naturellement est faux, comme tout stéréotype ?
Bien entendu.
Aussi peut-être une sorte de conduite d'échec.
C'est le socialisme des imbéciles, comme dit quelqu'un.
Ou alors peut-être aussi peut-être une conduite d'échec de Da Ponte qui finalement fait tout pour ne pas réussir dans ce domaine.
Je pense que tout simplement, il est ingénu. C'est l'ingénu, Da Ponte, en somme. Il le dit, c'est la fin de ses mémoires sont très touchantes, quand il dit qu'il est là, regardez les dernières pages, il est là dans sa librairie où vient personne. Alors qu'il a l'impression de vendre vraiment des trésors. Et il dit, ben, peut-être que je vais mettre, alors je suis tout seul là dans ma librairie. Oh, ce soir il est tard. Hein, à New York. Le librettiste de Così fan tutte et l'ami de Mozart est tout seul à New York dans une librairie. Le jour tombe. Hein, et ça lui parle, il est là, il regarde, il voit des carrosses passer, d'où sortent des belles femmes. Hein, bon. Puis à côté de sa boutique, il y a un magasin de sucreries et de pâtés. Alors il se dit, peut-être que pour attirer le public, je vais faire une pancarte. Et puis je vais dire, ici, on vend des sucreries et des pâtés d'Italie pour vendre Dante, Pétrarque, l'Arios, le Tasse. Écoutez, c'est charmant. C'est ingénu et en même temps extrêmement émouvant.
Alors, si on résume un peu cette formidable flèche...
Ben oui, écoutez, ça se résume par un événement extrêmement important, quand même. Bouleversant, parce que s'y mêle le fait qu'il est rentré en Italie pour essayer de trouver des chanteurs et des chanteuses italiennes, parce que la langue, c'est quelque chose de vivant, il faut l'incarner, il ne suffit pas d'avoir des élèves qui annonnent comme ils peuvent l'italien, il faut leur chanter aux oreilles, et qui va le chanter sinon des Italiens eux-mêmes. Et là, il rentre dans sa Venise et évidemment, n'est plus ce qu'elle était, puisqu'elle a été détruite par le complot. Napoléon avait un compte à régler avec la tradition républicaine. Venise l'incarne au plus haut niveau. Il déteste Venise. Les soldats français vont passer leur temps à marteler. Ils ont fait des déprédations considérables. Le rôle les Français en Italie, vous savez, c'était contrairement à ce qu'a dit Stendhal, la Chartreuse de Parme, qui était encore napoléoniste à l'époque, ça se traduit par quand même des vols, un pillage très, très consistant et des destructions. Rien qu'à Venise, la destruction des églises, la destruction de... Bon, a battu son plein. Pas tout ça, c'était l'Ancien Régime, les temples de la superstition, etc. Il n'y avait qu'à brûler un petit peu tout ça et en faire du bois pour des feux de camp. Voilà. Donc, Venise aurait pu rester parfait. Parfaitement une ville française, si pour se débarrasser à la fois de ce souvenir, etc., il ne l'avait pas rendu aux Autrichiens. Il l'a mis sous tutelle autrichienne, c'est-à-dire impériale. Donc c'était un avertissement, ça aussi, pour ce qu'il allait faire lui-même. Donc pour abaisser Venise, hein, il l'a donné aux Autrichiens. Il s'ensuit la longue mort de Venise. C'est le cas de le dire, pendant l'autrichiennerie, qui nous amène à Thomas Mann, and so on.
Et Visconti, à Saint-Saul.
Et à tout ça, à tout le magma sur Venise, qui reste là comme une momie. Bon. « y a quand même cette histoire de la première représentation de Mozart à New York. Je suis persuadé que les auditeurs ne savent pas forcément, c'est pas du Don Giovanni de Mozart, hein, qui va traduire d'ailleurs le livret en anglais lui-même, et puis ça va se vendre. Et le 23 mai 1826, hein, à New York, Don Giovanni résonne, et résonne dans des voix italiennes, et il y a là notamment la célèbre Malibran qui chante Zerline. Et alors là, en réalité, il se rend compte que Mozart, vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux. Il n'y aura pas tellement de gens, à part lui, pour en rester persuadé. Vous me direz qu'il y est intéressé au maximum, puisque son nom est associé. Mais enfin...
À l'époque, en 1826, quand même, l'écrémage s'est fait, et entre Salieri, Martini, Soler et Mozart, voilà, qui à l'époque de Vienne pouvaient paraître sur le même plan, voilà, le podium s'est établi.
Alors ce qui est drôle, c'est que lui-même se demande si quand même, enfin, Mozart est allemand, hein, bon, si Rossini n'a pas aussi des mérites, enfin... il trouve qu'il a beaucoup d'ennemis et il défend l'italien, donc il a envie de défendre Rossini.
C'est très étonnant pour les raisons pour lesquelles, enfin, on ne sait pas du tout pourquoi Da Ponte n'a pas été un librettiste de Rossini.
C'est très étrange. Ça aurait pu se passer. Mais il est vieux.
Hein, et d'autre part, il y a dans la biographie de Rossini, comme vous savez, quelque chose qui est tout à fait étrange, c'est qu'au bout de peu d'années, je ne sais plus exactement quelle est la date de son dernier opéra, c'est de Guillaume Tell, mais enfin, ça doit être dans les années, j'imagine, 1825 ou quelque chose comme ça. Rossini ne compose plus un seul opéra, il va encore vivre pendant tout à fait longtemps, mais ne faisant plus du tout d'opéra, d'ailleurs, ce pourquoi il a été fait sur Terre. Un peu comme Da Ponte, après l'expérience londonienne, n'a plus écrit de livret.
Quoi qu'il en soit, viva les féminines, viva le bonne vie, donc résonne dans sa langue d'origine, à New York. Et alors là, il y a une anecdote très drôle. Il y avait un Américain qui est au théâtre et qui s'endort tout le temps. Alors, il vient dormir à l'opéra, celui-là. Et puis il lui dit, d'abord, vous me réveillerez peut-être quand il y aura quelque chose à écouter, parce que moi, je m'endors à l'opéra. Voilà. De temps en temps, il le réveille, puis l'autre se remet à dormir et à ronfler. Alors. Et il dit, quelques jours plus tard, on représentait Don Juan. Alors, cet Américain était dans une loge quand j'arrivais. Je m'assis près de lui. À la fin du premier acte, j'essayais de lui adresser la parole. Il m'imposa silence. Le spectacle terminé, il me demanda pardon de son mouvement d'impatience et désira savoir ce que je voulais dire. Je voulais vous demander si vous aviez besoin de dormir. Demain, peut-être, mais pas à une pièce semblable.
Et alors, à cette représentation, évidemment, Don Juan assiste, vieux patriarche au fond d'une loge, entouré de jeunes femmes, ses élèves notamment.
Moi, je suis très ému. Là, voilà une scène aussi, vous comprenez, elle est très cinématographique, si mais enfin, une scène d'une émotion étonnante, parce que c'est émouvant comme le triomphe de Voltaire, après tout, après ses péripéties, mais enfin, Da Ponte est vieux, après toute cette vie.
Pourquoi on n'a pas plus de choses de Da Ponte ? Par exemple, vient de paraître en France la traduction d'un livre italien que j'ai cité déjà, mais qui n'est pas, à mon avis, une somme tout à fait parfaite.
On ne veut pas de Da Ponte.
On n'a pas traduit d'autres livres qui s'appellent notamment Lorenzo Da Ponte, le librettiste libertin. C'est un des sous-titres de l'ouvrage de Fats Line. On n'a pas fait de film sur Da Ponte, alors que c'est un personnage de film tout à fait extraordinaire. Pourquoi ? On ne veut pas de Da Ponte.
On ne veut pas.
C'est pas vrai. On aime bien ces trois ouvrages, enfin, Dieu sait qu'on les entend.
Oui, mais on ne veut pas que Mozart soit italien.
Je remercie Philippe Solers pour sa participation à cette série d'émissions sur Da Ponte. Philippe Solers double de son héros et je voudrais exprimer le souhait qu'il traduisit bientôt dans un écrit son enthousiasme pour ce héros, Lorenzo Da Ponte.